Nous sommes donc en compagnie de Philippe Mérieux pour cette bibliothèque de l'éducation qui se déroule à l'IUFM de Lyon. Nous allons parler de votre dernier ouvrage, Lettre à un jeune professeur. Mais plusieurs invités sont également présents sur le plateau pour vous poser quelques questions. Céline Lafond, vous êtes stagiaire CAPEPS. Cela veut dire que vous préparez, que vous avez passé le concours d'aptitude au professorat en éducation physique et sportive.
C'est ça.
Vous enseignez, vous avez des heures d'enseignement aujourd'hui à Saint-Chamond, dans la Loire. Vous avez une question à poser à Philippe Mérieux.
Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur Mérieux. Donc, ma première question est la suivante. Quand on est jeune professeur, comment fait-on lorsqu'on arrive en cours, qu'on prend donc la classe en main et qu'on se rend compte que les élèves sont plutôt préoccupés par les résultats sportifs du match qu'il y a eu la veille, mais également aussi de leur candidat préféré qui est parti à la Star Academy, et au mieux lorsqu'ils parlent du contrat de première embauche. Donc ma question est la suivante, comment capter l'attention des élèves afin qu'ils nous écoutent, bien qu'on ait préparé, structuré, adapté nos cours? Qu'est-ce pour vous en fait un élève attentif?
Bon, alors ça, c'est beaucoup de questions en une. Peut-être un petit retour par l'histoire. Alors, on sait bien qu'être attentif à quelque chose, c'est difficile et c'est pas miraculeux. Les hommes ont créé depuis toujours des institutions. Et des institutions, quand on entre dans ces institutions, on change de comportement. Quand vous entrez dans un tribunal, quand vous entrez dans un opéra, quand vous entrez dans une église, quand vous entrez dans des lieux qui ont un caractère un peu particulier, qui sont dévolus à une activité particulière, vous changez de comportement et il y a quelque chose qui se passe dans votre tête. C'est une sorte de zoom mental. Vous êtes là, vous êtes dans la rue, vous pensez à des tas de choses et tout d'un coup, progressivement, vous zoomez comme un photographe vers un objet particulier. Alors l'école était, et a longtemps été dans l'esprit de tous, une sorte d'institution comme ça. Et on faisait l'hypothèse que l'élève en récréation, il pensait à des tas de choses. Et puis il arrivait en classe, on claquait des doigts, il se mettait une seconde debout à côté de sa table et de sa chaise. Et puis tout d'un coup, il avait zoomé sur le théorème de Thalès. Tout le reste était totalement aboli. Il ne pensait plus ni à sa rage de dents, ni à ses problèmes familiaux, ni la Starac n'existait pas encore, ni à la variété de l'époque. Il pensait au théorème de Thalès. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous assistons d'une manière globale en France, et pas seulement dans l'école, à un effritement de ces institutions. Les gens qui se promènent dans une église aujourd'hui ne sont pas forcément dans l'état d'esprit qu'avaient ceux qui, au Moyen-Âge, rentraient du parvis et allaient progressivement, en passant par les différentes étapes, vers le tabernacle. Même des bons élèves, quand ils rentrent aujourd'hui dans un théâtre ou dans un cinéma, ils n'ont pas forcément cette attitude qui correspond au lieu. Je pense que l'école a besoin de retrouver quelque chose de ce niveau-là. Retrouver quelque chose dans son architecture, dans ses modes de fonctionnement. Je dis souvent, à cet égard, pour illustrer cette notion d'institution, c'est la différence entre le cinéma et la télé. Quand vous rentrez au cinéma, vous êtes dans un lieu, vous vous asseyez côte à côte, puis vous avez un comportement qui correspond à ce que vous voyez. Tout le monde regarde le film, en principe, du début jusqu'à la fin, ne fait pas autre chose en même temps, même s'il mange un peu de pop-corn, mais pas beaucoup, parce que sinon les voisins s'énervent et s'excitent. Et puis, à la fin, vous quittez votre place, c'est fini. Il y a quelque chose qui a arrêté votre activité quotidienne et qui vous a incité à prendre une activité particulière. Et puis la télé, c'est pas du tout ça. La télé, vous la laissez allumer, vous faites autre chose. La télé, elle marche, vous allez manger un morceau de fromage dans le réfrigérateur, vous téléphonez, vous envoyez un texto, vous prenez la télécommande à votre sœur ou à votre frère. Et la question aujourd'hui, effectivement, c'est que beaucoup d'élèves rentrent dans les classes, non pas comme ils rentrent dans un cinéma, mais comme ils regardent la télévision. C'est-à-dire, ils ne rentrent plus dans une institution, ils consomment un service. Ils consomment un service. Et le travail de l'enseignant, c'est de réinstitutionnaliser l'école, c'est-à-dire de fabriquer de l'école, de leur faire entendre ce que c'est qu'une institution, ça a des règles, et c'est un travail compliqué qui concerne à la fois les élus qui s'occupent des bâtiments, et le bâtiment, c'est pas simplement un contenant, c'est aussi quelque chose qui institue un comportement, donc qui participe à la mission éducative de l'école. Ça concerne les cadres éducatifs, bien sûr, les principaux, les proviseurs, mais aussi tous ceux qui participent, et ça, c'est aussi l'enseignant. Alors, vous avez la chance d'enseigner dans une discipline, l'éducation physique et sportive, qui a des objets, qui a des lieux aussi dédiés. Je crois que vous sentez bien et vous le savez bien au quotidien que ces objets et ces lieux vont apporter une sorte de lest aux élèves. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faudra, et il faut déjà, je crois, réinstaller des rituels. Alors, juste un mot et je termine. Un rituel, c'est un moment où on change d'état d'esprit. Où on était dans le grand angle, on parlait de ses copines, de la Starac, de tout ça, et on zoome sur quelque chose. Mais le rituel, c'est pas magique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas claquer dans les doigts et dire « Ouvrez votre livre, page 52, faites ceci et espérez que les élèves vont oublier tout ce qu'ils avaient dans la tête. » Il faut probablement un temps, il faut occuper ce temps, il faut un comportement particulier, il faut organiser les choses pour que l'élève rentre dans l'activité que vous voulez lui proposer. Alors, je n'ai pas de recette miracle là-dessus, mais on en reparlera si vous voulez. Peut-être qu'on trouvera des solutions individuelles.
Merci. François Deguet, vous avez peut-être constaté vous-même qu'il fallait ces rituels. Vous êtes en effet jeune enseignant en maternelle. Vous êtes nommé pour la première année à Vaux-en-Velin. Je ne sais pas si vous avez constaté qu'il fallait des rituels et comment s'installait justement la paix en classe, mais en tout cas, vous avez une question aussi à poser à M. Mérieux.
Juste pour les rituels, je suis en maternelle, en toute petite section, avec des 2-3 ans, les rituels sont très très importants et font commencer la journée de manière sereine, et autant pour le professeur que pour les élèves. Donc ma question, c'était par rapport à l'ouvrage, vous faites référence au petit Marcel Pagnol, au grand Maulne. Mais en même temps, vous dites que c'est une aspiration devenue aujourd'hui pédagogiquement incorrecte. Page 11, je vous cite.
Oui. Non. Quand je fais allusion à ça, je pense à un certain nombre d'enseignants qui ont une sorte de rêve de restituer une idée un peu idyllique de l'école, une image un peu idyllique de l'école, qui est l'école avec les blouses grises, avec les élèves qui sont sérieux, avec le poêle en bois, avec les choses sur les murs, l'écorché au fond de la classe. Et nous, on aime bien ça parce que c'est notre enfance et puis c'est aussi, pour vous qui êtes beaucoup plus jeune, une image dans les livres d'une espèce de paix scolaire où tout allait bien, où on n'était pas encore assailli par la télévision, par tout ça. On a le sentiment que tout allait bien. Je dis c'est devenu politiquement incorrect parce que c'est vrai, on dit la nostalgie n'est pas de mise. Alors, pour moi, cette aspiration à cette école-là, elle ne doit pas être complètement abolie. Il y avait quelque chose dans cette école, dans l'école de Marcel Pagnol, dans l'école d'Albert Camus, dans l'école du Grand Maulne, d'assez formidable. Simplement, on ne peut pas se contenter de chercher à reproduire ça. C'est fini, le fleuve ne passe jamais deux fois sous le même pont, c'est terminé. Les problèmes aujourd'hui sont complètement différents. La nostalgie ne sert à rien. Il faut au contraire, je crois, se dire quelle situation on peut créer aujourd'hui pour faire aussi bien que ce que ces gens-là faisaient à l'époque dans les conditions où ils étaient. Et je crois qu'il y a une vraie interrogation à cet égard qui est faite à la fois aux enseignants et au système éducatif. On ne reviendra pas en arrière, mais on peut faire autre chose qui soit aussi bien. Ça, j'en suis convaincu.
Je reviens un petit peu sur la question précédente, puisque Céline se demandait justement comment rendre un élève attentif, comment faire pour que cela s'installe. Est-ce que vous pourriez nous donner des petits trucs? Est-ce qu'il y a des choses, des basiques?
Moi, je crois qu'il y a d'abord quelque chose qui, pour moi, est très fondamental, c'est la préparation du cadre. On ne peut pas espérer obtenir l'attention l'apostrophe des élèves, dans n'importe quel cadre, quand ils rentrent en se bousculant et en s'installant n'importe comment sur les tables. Moi, à cet égard, je suis un peu maniaque. Je souhaite que le cadre soit préparé à l'avance, qu'il y ait des choses écrites au tableau, que les consignes soient bien claires, que le temps soit bien organisé. Vous le faites, hein, et c'est bien ce que vous essayez de mettre en œuvre au quotidien. Je crois que le cadre est très important, qu'on ne peut pas être idéaliste complètement, on ne peut pas écrire et réfléchir sur un coin de table, dans un cahier de brouillon dont on ne sait pas ce qui va devenir. Je crois qu'il y a une vraie exigence sur les outils, sur tout ça qu'il faut avoir. Et puis, à côté de ça, je pense qu'il y a une manière de s'adresser à la classe, il y a une manière d'être clair, exigeant, et simple dans les consignes, sans trahir ce qu'on dit. Si, par exemple, on dit « c'est le silence, c'est un travail individuel », eh bien, il faut que le prof, il observe lui-même les règles qu'il pose. Il ne faut pas qu'il se mette à s'énerver n'importe comment, à courir n'importe comment. Il y a des cohérences élémentaires à faire. Moi, alors, juste une anecdote pour finir. Moi, j'ai été professeur de français en collège assez longtemps. J'avais déjà, moins qu'aujourd'hui, ces problèmes de rituel et de cadre. Alors moi, j'avais mis en place un rituel très simple. Pendant le premier trimestre, avant l'arrivée des élèves dans la classe, j'inscrivais au tableau une citation et un auteur. Une citation très courte, de deux lignes. Et je demandais aux élèves de s'installer. Je les saluais à l'entrée un par un. Ils rentraient un par un dans la classe. Ils s'installaient à leur bureau. Et les trois premières minutes étaient consacrées à la mémorisation de cette citation, simplement. Au bout de trois minutes, ils écrivaient dans leur carnet de citations. Et puis, on passait à autre chose. Et à partir du deuxième trimestre, ce n'était plus moi, mais c'était un élève qui, chaque heure, venait inscrire une citation. Alors, moi, j'étais prof de français. Ce n'est évidemment pas quelque chose qui est transposable à n'importe quelle discipline. Mais je pense que les disciplines, quelles qu'elles soient, peuvent permettre d'organiser en cohérence avec leur contenu des rituels qui suppriment la tension en deux mots, T-E-N-S-I-E-N, pour créer la tension, L'apostrophe. Parce que pour la plupart des collègues que je rencontre, pour vous, il y a une vraie tension dans les classes. C'est tendu aujourd'hui. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Dans les classes, c'est tendu, c'est compliqué. Les élèves sont excités. D'abord, ils sont fatigués. Hein. On oublie qu'un élève de 6e a perdu en 50 ans 1h40 de sommeil par jour. Hein. On se lève toujours comme à l'heure de l'agriculture, mais on se couche 1h40 plus tard à cause de la télévision. Les élèves sont fatigués, les élèves sont excités, les élèves sont souvent préoccupés par l'actualité, par les problèmes familiaux, les problèmes de leurs parents, etc. Il y a de la tension. Et puis, il arrive qu'il y ait des tas de petits événements qui nous pourrissent la vie, les retards, les machins, les gars qui n'ont pas leurs affaires. C'est le quotidien de l'enseignant, tout ça. Et contre cette tension T-E-N-S-I-O-N, il faut créer l'attention. Et l'attention, c'est cette focalisation sur un objet qui va leur permettre de s'investir et de trouver de la satisfaction en étant fiers d'eux s'ils réussissent. Parce qu'au bout du compte, c'est si l'enseignant réussit à faire faire à l'élève quelque chose dont l'élève est fier, et non pas qui engendre chez lui la déception ou l'échec, que la classe va se construire et que l'élève va grandir simultanément.
Bien, nous poursuivons cette émission dans quelques instants avec Philippe Mérieux à l'IUFM de l'Académie de Lyon.